brillante extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
Chers auditeurs, souvenez-vous, c'était il y a près de 5 mois, le 12 février dernier, couvrait aux missions étrangères de Paris, au 128 de la rue du Bac, l'exposition L'Évangile au pays du sourire pour célébrer l'anniversaire des 350 ans de présence des missionnaires MEP en Thaïlande. Exposition que vous pouvez visiter jusqu'au 30 juin. Et pays que notre invité connaît bien puisqu'il y est missionnaire depuis plusieurs années. Le père Nicolas Lefébure nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour père Nicolas Lefébure.
Bonjour Duarte.
Eh bien père, avec vous, nous prenons des nouvelles de l'Église d'Asie. Et c'est tout d'abord l'Inde qui est à l'honneur. En effet, le premier laïc indien déclaré saint de ce pays, c'est l'actualité du mois de mai dernier au Vatican, un hindou converti au catholicisme a été déclaré saint. Il s'agit donc du premier laïc du pays à être déclaré saint. De nombreuses célébrations ont marqué l'événement à travers l'Inde, en particulier dans l'état du Tamil Nadu, où a vécu Deva Shyam, c'est son nom. Le diocèse de Kottar a organisé 3 jours de prière et d'adoration avant les canonisations. Au Sri Lanka, des prêtres et des religieuses sont médiateurs dans un contexte chaotique. Alors que le premier ministre du pays a présenté sa démission, des groupes pro-gouvernement ont lancé des attaques et plusieurs personnes ont trouvé la mort. Le 10 mai au soir, un groupe de prêtres et de religieuses de Negombo est intervenu dans la localité de Mayanupiya afin d'éviter des violences entre la majorité singhalaise et la minorité musulmane. Aux Philippines, Ferdinand Marcos Jr. remporte une large victoire malgré des violences et des irrégularités. C'est la triste actualité des Philippines. Le 9 mai, c'était près de 65 millions d'électeurs philippins qui étaient invités à voter pour leur nouveau président. Après les 6 années controversées du président sortant, bien connu Rodrigo Duterte. Le 10 mai, une large victoire a été annoncée par le favori Ferdinand Marcos Jr., fils de l'ancien dictateur du pays, entre 1965 et 1986. En Corée du Sud, 5 œuvres d'un héros catholique sont reconnues comme trésor culturel national. C'était le 11 mai à Séoul. L'administration du patrimoine culturel coréen, CHA, a reconnu comme trésor culturel national 5 œuvres de calligraphie réalisées par Thomas Han Yong-gun, qui a vécu entre 1879 et 1910. Catholique coréen et héros de l'indépendance coréenne face à l'impérialisme japonais, c'est une figure importante du pays. Le 26 mars dernier, Mgr Pierre Chung Son-taek, archevêque de Séoul, avait également commémoré l'anniversaire de sa mort. En Chine, le cardinal Zen a été libéré sous caution après une arrestation à Hong Kong. C'était une actualité importante du mois de mai. C'était le mercredi donc 11 mai, un jour seulement après la désignation de John Lee comme prochain chef de l'exécutif hongkongais, que le cardinal Zen, archevêque émérite de Hong Kong, connu pour sa défense du mouvement pro-démocratie, avait été arrêté avec 4 membres civils hongkongais accusés de collusion avec des forces étrangères. Ils ont été libérés sous caution quelques heures plus tard. En Thaïlande, Bangkok promet de soutenir les gitans de la mer. En mai dernier, lors d'une visite auprès d'une communauté indigène Moken, également appelée gitans de la mer, Yurin Laksanawit, vice-premier ministre thaïlandais, a promis une aide à cette minorité ethnique de l'île de Phuket et autour de la mer d'Adaman. Plusieurs ONG ont également lancé des initiatives en leur faveur, dont le Mercy Center, une organisation catholique qui propose des aides alimentaires et des projets éducatifs. Nous retrouvons le père Nicolas Lefébure, prêtre des missions étrangères de Paris en Thaïlande. Alors, père Nicolas Lefébure, votre parcours vous a mené à être missionnaire donc dans ce pays, la Thaïlande, particulièrement chez les Karen au nord du pays. Mais quel est-il ce parcours et est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu en sortant de vos études ?
En sortant de mes études, comme beaucoup, j'ai d'abord travaillé. J'ai travaillé quelques temps, j'ai eu deux emplois, le premier dans le bâtiment, le second dans les assurances. Ça a duré finalement 9 ans et j'ai été rattrapé par un sentiment ancien qui était celui de la vocation à la prêtrise. Après un temps de discernement et aussi d'engagement catéchétique notamment, je suis rentré au séminaire en 99. 6 ans plus tard, j'étais en Thaïlande. Ayant pris un tournant à peu près au milieu de mes études au séminaire, d'abord engagé pour la Normandie, toujours aimant la Normandie, ses prêtres et sa population, mais avec le sentiment d'une attirance forte et permanente vers les populations qui sont en Asie. Et c'est en début de quatrième année au séminaire que j'ai demandé à rejoindre les missions étrangères de Paris. Au moment du diaconat, on m'a nommé pour la Thaïlande et j'y suis depuis 17 ans.
Donc rappelons peut-être la tradition des missions étrangères de Paris. Les séminaristes ne choisissent pas leur pays de mission, ils le reçoivent. Vous aviez une certaine appréhension avant de recevoir ce pays où ça a été
parfaitement
naturel ?
Non, pas du tout. L'idée me plaît. On ne choisit pas sa propre mission, on se la laisse donner par l'Église et cette disponibilité me parle. J'étais tout à fait ouvert à n'importe quelle nomination et je suis bien heureux en Thaïlande déjà, convaincu que je l'aurais été aussi dans un autre pays. Mais voilà, l'idée de servir et de se rendre disponible pour le service me parlait beaucoup.
Et donc, en entrant au séminaire, vous n'aviez pas forcément en tête l'idée de la mission. Vous aviez déjà eu des expériences en Asie, où c'est venu après, c'était la grande inconnue.
Oui, le sentiment de la vocation est ancien, remonte à la jeune enfance, j'ai envie de dire. Et lorsque je suis rentré au séminaire, je connaissais l'Asie, mais pas les missions étrangères. J'avais découvert l'Asie à travers la Birmanie et le Laos, en particulier dans le cadre de mes propres loisirs. Et ce sont les deux pays à travers lesquels j'ai aimé les populations donc, qui sont sur ce continent.
Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement ?
Le rapport aux gens, le rapport aux personnes, leur capacité d'émerveillement, qui est très forte, leur capacité aux joies simples, à se réjouir de petites choses. Et le courant passe bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est de l'ordre un peu du feeling, de l'être ensemble. Je suis bien avec ces gens-là, je crois que c'est réciproque. Et donc, j'ai eu envie de témoigner de mon espérance au milieu de ces populations. Étant au séminaire, j'ai fait d'autres expériences dans d'autres pays d'Asie. Ça a confirmé cette attirance. Et aujourd'hui, eh bien, ma foi, ça fait déjà presque 20 ans voilà, que je suis auprès des Thaïlandais.
Donc c'est un discernement qui s'est fait petit à petit. Il y a deux discernements quand on vous entend, celui de l'Asie, celui de la prêtrise. Vous étiez donc au séminaire pour le diocèse de Rouen. Comment s'est passée cette transition, notamment avec votre évêque, comment, voilà.
Oui, au séminaire, on nous donne tous les moyens sur le plan intellectuel, spirituel, pastoral, pour discerner l'appel à la prêtrise. Et au sein de cette première réflexion, existait une seconde question qui était celle de l'exercice du ministère, pourquoi pas en dehors de nos frontières, c'est-à-dire en Asie. L'évêque de Rouen, je suis du diocèse de Rouen, a été très ouvert à ce sentiment qui m'animait. On en a parlé un petit peu, et puis très librement, j'ai pu choisir au milieu du parcours de m'orienter plutôt vers l'Asie. Sachant que pendant les 3 premières années au séminaire, l'insertion que nous vivons tous les week-ends m'avait permis d'abord de m'engager aux côtés des paroissiens dans différentes paroisses du diocèse de Rouen. Et puis, d'une certaine manière, de vérifier aussi mon attachement à ce diocèse et à ses prêtres, parce que j'ai vécu au milieu d'eux pendant 3 ans, j'ai vu les choses de l'intérieur, et tous ces pasteurs sont pour moi de chics garçons, vraiment qui se donnent à fond. Maintenant, à côté de, comment dire, de cette admiration vouée pour mes confrères prêtres à Rouen, demeurait cet attachement fort, cette attirance forte envers les populations qui sont en Asie. Alors, je suis parti avec le désir d'essayer de vivre une fécondité mutuelle, mettre en place une petite passerelle si possible. La pratique montre que c'est difficile parce que nous sommes à 9000 km de distance. Les préoccupations sont différentes, mais l'intention demeure, je me sens quand même profondément en communion avec mon église d'origine.
Vous gardez des liens donc avec le diocèse.
J'ai quelques liens avec des paroissiens. J'ai eu l'occasion, pendant la période de formation, de vivre dans 3 paroisses différentes, 2 ans chacune. Et donc, j'ai des liens encore aujourd'hui avec un certain nombre de familles dans ces paroisses et des prêtres du diocèse. Ce sont des liens épistolaires, quelquefois des visites une fois tous les 3 ans. Mais voilà, c'est, comment dire, ça fait plaisir de pouvoir entretenir un petit peu quand même cette attache, cette origine. Bien sûr, on manque de prêtres en France, mais un diocèse qui sait donner des prêtres à des églises plus pauvres encore, bah, quelque part, c'est beau aussi. Et donc, je suis heureux de pouvoir participer à la mission universelle, d'une certaine manière, au titre de l'église qui est à Rouen. Voilà.
Donc il y a une dimension de liberté aussi dans ce discernement, parce qu'il faut se sentir appelé par le Seigneur, répondre à cet appel. Vous avez senti un combat à ce titre au séminaire où vous vous êtes dit par le Seigneur, ton serviteur écoute, là où tu me veux, j'irai.
Oui, je crois que j'ai vécu des choses avec beaucoup de gratuité et de liberté, si vous voulez, ou en tout cas de sérénité, disons ça comme ça. Lorsque je suis parti, beaucoup de personnes m'ont dit, mais comment fais-tu ? Il faut quitter tout son réseau de relations, tous ses repères culturels. Alors, pour moi, ça a été chose facile. Je ne me sens pas du tout retenu en France. Non seulement l'accueil, mais aussi la vie au quotidien dans ce pays, dans la Thaïlande, en fait, ne me coûte pas. Pour moi, c'est un lieu de joie. Je n'ai pas eu d'effort à faire de ce côté-là. Merci Seigneur.
Et alors, s'intégrer dans le pays, dans une culture radicalement différente, c'est certainement un effort. Vous avez passé d'abord un certain temps, 2 ans, 3 ans, à Bangkok pour apprendre le thaïlandais. C'est une période de confirmation de cet appel. Comment on vit ce temps quand on est prêtre missionnaire ?
C'est un devoir, par la force des choses, de tout missionnaire qui quitte ses propres frontières, de faire au début un effort d'apprentissage linguistique et culturel. Et le succès dans l'exercice du ministère en dépend. Si vous parlez mal la langue locale, vous ramez et en plus vous fatiguez tout le monde. Donc il y a un enjeu important, il faut faire un effort au départ. Et c'est vrai que c'est un petit peu desséchant, parce qu'on n'est pas engagé en fait en pastoral, on est surtout à nos études. Et donc il faut apprendre la langue de manière intense. Cela dit, c'est rapidement gratifiant parce que à partir du moment où on peut parler ne serait-ce que quelques phrases avec les locaux, ça crée beaucoup de joie et de belles rencontres. Confirmer la vocation, oui, par cette communion qui se construit en fait au fil des conversations qui sont rendues possibles. Et après les conversations, c'est l'action. Vient le temps de partir dans un poste de mission, d'aller sur le terrain. Et là, j'ai eu un ministère assez itinérant pendant 9 ans, en tout cas, avant de redescendre à Bangkok pour m'occuper de la paroisse francophone. Mais pendant ces presque 10 ans de montagne, qui sont la continuité opérationnelle en fait de ce temps d'apprentissage, on peut le voir comme ça. C'est bien sûr confirmation de cette vocation, confirmation par l'accompagnement des personnes et puis les belles œuvres. On essaye quand même sur le terrain non seulement de témoigner de notre espérance, mais aussi de servir les gens. Et donc, on a quelques petits projets, toujours en passant, d'éducation, de santé, de développement. Ça fait aussi partie de la mission.
Eh bien, ces projets, merci Père Nicolas Lefebure, nous allons les aborder avec vous et nous écoutons maintenant une chanson composée à l'occasion de la venue du pape François en Thaïlande, Let the Love Be the Bridge. Nous venons d'entendre une chanson thaïlandaise composée à l'occasion de la venue du pape François en Thaïlande. Et nous retrouvons avec grande joie le père Nicolas Lefebure. Le père est missionnaire en Thaïlande depuis plusieurs années. Alors, père, vous avez pris donc possession, si on peut dire, de votre premier poste missionnaire en 2008 chez les Karen. Quelle était l'urgence de la mission? Quel était le contenu? Comment vous avez vécu ce moment?
On m'a confié ce poste de mission en 2008. J'y suis resté 9 ans. J'aime bien qualifier le ministère que j'ai eu de visitation, de dire que c'était un ministère de visitation. J'aime beaucoup l'évangile qui commence ainsi. En toute hâte, Marie se rendit auprès de sa cousine Élisabeth. On connaît la suite du texte. Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, bondit de joie à la venue de son Seigneur. Et l'idée, pour nous, c'est d'être les visiteurs de ceux qui attendent une rencontre avec le Seigneur. Ça a été pour moi très, très porteur. C'est un petit peu, comment dire, l'élan fondamental qui m'a poussé dans ces villages. Et puis, la suite du texte dit « Et Marie demeura auprès d'elle 3 mois encore et elle la servait ». Et donc l'idée, c'est aussi de s'attarder. C'est-à-dire que quand on visite les gens, on ne va pas seulement dire une prière et puis retour à la base arrière. En fait, on reste, on passe une nuit, 2 nuits, 3 nuits éventuellement dans le village, et puis on passe au village suivant. Donc j'ai eu, pendant 9 ans, une vie très mobile. Dans la montagne, en visitant ces familles, au-delà de la messe dominicale, il y a les sacrements. Alors souvent, à la saison, après les récoltes, saison des mariages. Pour les enfants, lors des grandes vacances, nous organisons des camps de catéchisme et c'est l'occasion pour eux de recevoir la première communion, la confirmation. Parfois, c'est la vie des familles aussi qui nécessite quelques visites. Je pense aux funérailles, par exemple. Ce n'est pas toujours possible dans un pays chaud, où ça ne peut pas attendre. Et lorsque les pistes sont difficiles à pratiquer, quelquefois, on arrive pour la prière quelques jours après. Mais c'est une présence dans la durée, un accompagnement dans la durée qui se fait auprès des familles et plus largement que ça auprès du voisinage, parce que il y a un phénomène assez remarquable. Quand on vient, par exemple, de célébrer la messe dans une chapelle, souvent les gens viennent vous voir et vous disent « Maintenant, il faut que le père vienne prier à la maison. » Alors, on va prier chez les gens, on va bénir la maison, bénir la famille. Et le voisinage, qui n'est pas forcément chrétien, vient. Il y a une dimension de rassemblement qui fait aussi partie de c'est culturel, de la vie chez les carènes. On monte facilement par l'échelle dans la maison du voisin. Tout le monde participe à la prière. Ensuite, on passe de maison en maison pour partager quelque chose à manger avec les familles. Il y a un côté très convivial. Et puis, à côté de ça, on porte aussi quelques projets parfois. Dans le village qui était celui de ma principale communauté, au terme de 7 ans de présence, donc on s'est pas fait les choses avec précipitation. Au bout de 7 ans de présence, on a reconstruit l'école et ça a été un chantier formidable. Ça a pris 6 mois. Tout le monde s'y est mis, y compris les bonzes du temple qui sont allés ramasser des cailloux. Les grands-mères étaient à la rivière pour ramasser du sable. Et on a fait, comment dire, un chantier communautaire assez exceptionnel. C'est une belle école. On a aussi quelques chantiers d'adduction d'eau ou des panneaux solaires, par exemple.
Donc, on fait les choses ensemble en Thaïlande, et particulièrement chez les carènes. Vous décrivez cette atmosphère d'accueil. C'est ce qui vous touche dans ce ministère. Comment est-ce que vous présenteriez les carènes à des gens qui n'y sont jamais allés?
Ce sont des gens qui vivent de manière assez rustique, dans des villages difficilement accessibles, qui font la rizière, qui vivent aussi un petit peu de ce qu'ils trouvent dans la forêt. Aujourd'hui, qui ont tendance à planter du maïs et donc à se lancer dans la culture intensive, c'est assez dramatique d'un point de vue environnemental. Ou alors, beaucoup, lorsqu'ils sont jeunes en tout cas, vont chercher un premier salaire à la ville. Tôt ou tard, ils reviendront au village. La culture est forte et ils sont quand même très attirés par un enracinement dans leur village d'origine. Voilà. C'est une minorité ethnique, un peu enclavée, en tout cas dans la région de Mesot, sur la frontière avec la Birmanie. C'est un peu plus développé au nord, dans la région de Chiang Mai. Mais nous étions au nord-ouest, et là, il y a quand même un retard d'un point de vue formation universitaire, et puis d'un point de vue développement économique. Il n'y a pas vraiment d'activité salariée dans la montagne. En fait, il faut aller chercher un boulot à la ville, ou alors essayer donc cette culture intensive du maïs, mais on n'est pas gagnant à tous les coups. Je dirais même qu'ils sont souvent malheureusement perdants. Donc on est présent auprès de ces peuples attachants. C'est très rural, c'est très simple, c'est très joyeux, c'est assez communautaire. Le sens du rassemblement, comme je disais, il est assez fort. Je pense qu'ils sont assez très reconnaissants, assez demandeurs d'un leadership et très reconnaissants du temps que l'on leur accorde, de l'attachement qui est le nôtre à leur minorité, parce qu'en fait, pour eux, ils gardent l'image d'occidentaux qui ont quitté un certain confort pour venir au bout du monde, s'occuper d'une minorité inconnue, qui parle une langue qui ne sert à rien. Mais voilà, on est là, et dans la durée, et ça leur parle.
Alors dans la revue MEP de 2020 consacrée à la Thaïlande, vous écriviez « Le Christ nous précède dans la mission ». Vous avez vous-même été précédé dans votre mission. Est-ce que vous avez été marqué en particulier par une figure de vos prédécesseurs? Est-ce que ça nourrit aussi votre ministère aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Dans la région de Mesot, la communauté catholique a à peu près 60 ans. Elle a été initiée par trois pères fondateurs là, dans la région, dont le père Joseph Guillou, qui est mon prédécesseur immédiat dans le poste que j'ai occupé. Alors, après lui, il y a eu quelques prêtres locaux, quelques prêtres thaïs qui se sont succédés, mais Missions étrangères, si vous voulez, il est le fondateur du secteur dont je me suis occupé. J'ai rêvé de pouvoir réunifier en fait ce qui fut son secteur au départ en tirant une diagonale sur une cinquantaine de kilomètres, j'ai imaginé pouvoir restaurer un petit peu ce secteur d'origine. Bon, mais aujourd'hui, les tâches sont partagées, et donc c'est très bien comme ça. Par contre, les gens gardent en mémoire la figure d'un missionnaire connu pour sa grande douceur et puis sa connaissance de la culture. Alors, ça me parle, je suis fier de pouvoir inscrire mes pas dans les siens.
Eh bien, merci, Père Nicolas Lefebure. Inscrire les pas dans ceux du Maître, c'est aussi l'attitude des apôtres. Merci pour ce témoignage missionnaire. Au revoir, Père Nicolas Lefebure.
Merci.
Voilà, chers éditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orient Extrême.